Philosophie première, Saint Joseph, cours du 8 novembre.
Je vais aller assez vite pour rejoindre le moment où nous étions restés l'année dernière. J'ai insisté pas mal sur le point de départ pour que vous compreniez mieux, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours l'année dernière, de ce que représente la naissance de la philosophie première. Je crois très important de bien saisir ce moment. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit, que tous les mois, nous aurons un cours libre de réponse à des questions. Et si ce n'est pas suffisant, on mettra deux cours. On essaiera de trouver tous les mois deux cours. Alors, comme la semaine prochaine, je pourrai être une journée de plus ici. On fera ça le lundi soir. Alors, tous ceux qui ont des questions réelles, vraies, pas des questions fallacieuses, mais des questions qui soient des questions, on se pose des questions, vous puissiez les rédiger et puis les mettre, vous n'avez pas besoin de signer, et les mettre à la porte du frère Benoît qui les récoltera pour voir quels sont les grands sujets sur lesquels il y a des questions. On gardera du reste la formulation, c'est toujours intéressant de garder la formulation d'une objection. Je dis ça, c'est pour que nous puissions avoir quand même un certain dialogue. Puisque dans les cours habituels, je suis seul à parler. Si on était moins nombreux, je vous dirais, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. Parce qu'alors c'est les petits pains chauds. Ça a d'avantages, ça a des inconvénients. C'est que souvent, ça ralentit énormément le développement même du cours. Mais ça a un avantage, c'est parce qu'une objection, il faut la saisir hein, comme un lièvre hein, au bon moment. Alors, vous-même, n'hésitez pas et faites-le d'écrire, d'exprimer vos objections au moment où elles jaillissent. De l'exprimer. Quelquefois, et vous verrez vous-même, vous mettrez cette objection et puis vous la relirez 8 jours après, et vous verrez que ça tombe. C'est très curieux. C'est comme ça notre vie. Mais c'est bon de l'écrire, parce que ça explicite, ça thématise une objection. Et une objection ne doit jamais être refoulée. Très mauvais de refouler les interrogations. Parce que ça fait des puits où l'eau moisit. Il faut au contraire, quand on se pose vraiment une interrogation, il faut la formuler. Il faut se la dire. Et si on voit que ça demeure, on la dit en public. Et on se la formule et on essaie de répondre. Du moins, on essaie de répondre. On essaie de dialoguer à partir de cela. Donc, vous voyez, là, c'est important pour chacun d'entre nous. Si vous n'avez pas d'objection, hein, vous n'avez pas du tout. Mais si vous en avez, il faut autant que possible les formuler. Et c'est bon de les formuler. Bon, ça nous apprend à les formuler, ce qui n'est pas si commode que ça. Ce n'est pas commode du tout de formuler une objection. Parce qu'il y a des objections qui sont à l'état embryonnaire, vous voyez. On les sent. Il faut que ça naisse. Autrement, elles sont refoulées dans le sein maternel et ça ne va pas du tout. Et alors, ça fait quelque chose qui ne peut pas permettre à notre intelligence de progresser. Toute interrogation, comme je dis objection, c'est des interrogations, des choses que nous ne voyons pas. Toute interrogation permet le progrès de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on doit essayer de la formuler. Alors, continuons ce que nous avions vu la dernière fois, rapidement. Je vous avais dit que quand l'intelligence interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? On se pose la question, la signification de l'être est-elle la même que dans le jugement d'existence ceci est ? Et si nous réfléchissons bien à ce problème, qui est très important, très important, qui est important. J'y reviendrai à propos de la signification des mots. dans le cours de théologie fondamentale. Mais ici, par rapport au verbe être, vous comprenez comme c'est important. Le verbe être, parmi tous les verbes, tient une place très unique. Et c'est vrai, ça tient une place très unique. C'est du reste très intéressant de voir comment le verbe être naît différemment dans chaque langue. Il est quelquefois quelque chose qui vient en dernier lieu. Et il est quelquefois au contraire quelque chose, et quelquefois quelque chose qui ne naît jamais. Il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas le verbe être. Il n'y a que les verbes d'action, de passion. Le verbe être est un dépassement de l'action et de la passion. Et donc, c'est un verbe très élaboré au point de vue du langage. C'est un verbe qui exprime un état au-delà de la passion et de l'action. Et même plus qu'un état, il exprime quelque chose de fondamental. Ceci est. Ce n'est pas un état. Donc vous voyez, ordinairement, dans les verbes, il y a le point de vue de l'action. Le verbe est premièrement ce qui exprime l'action. Je marche. Je mange. Je dors. N'est-ce pas? Ça, vous le dites tous les jours. L'action et la passion. Le verbe peut exprimer un état. Alors ça, c'est relié à la passion. Et c'est relié aussi à l'action, l'état de détente. Je me détends. Je me couche. Hein? Un état. Je suis assis. C'est un état particulier. Et puis là, il y a quelque chose de plus, le verbe être. Vous voyez, avoir, c'est lié à l'état. Être et avoir. Hein? Je possède, c'est un état. Posséder, c'est un état. Vous avez un dominium sur votre bic. C'est quand même un dominium. Quelquefois, c'est le dernier dominium que vous avez. Tu vois? La seule chose qui vous reste. Alors, vous faites subir toute votre irascible. S'il pouvait gémir, il gémirait. Alors, être, avoir, action, passion, tout ça, regarde le verbe. Le verbe exprime ces différents aspects. Eh bien, le verbe être, c'est l'aspect dernier, ultime, qui dans certaines langues n'est pas exprimé, mais il est présent dans les autres. Ce n'est pas tellement ennuyeux, il n'est pas encore explicité. Il n'est pas encore explicité, mais il s'exprime selon ses modalités différentes. Alors, le verbe être à l'infinitif a la même signification que le point de vue du présent. Il y a un mode grammatical différent qui exprime par le fait même un état particulier dans l'être. Ceci est, je suis l'être. L'infinitif a ce privilège d'être dans une attitude réflexive pour présenter le verbe en lui-même. C'est le propre de la forme de l'infinitif, qui se ramène toujours à quelque chose de substantiel. Mais la signification du verbe demeure la même, au-delà de ses modalités. Mais je peux être très sensibilisé à ces modalités. Alors ça, c'est le problème de Heidegger. Heidegger est très sensibilisé par toute une perspective du reste philologique qu'on comprend très bien. Il est très sensibilisé au participe, à l'infinitif. Le participe, selon sa forme grammaticale, est toujours une forme secondaire. On est relatif à. Donc, l'étant, qui est la forme du participe, F, qui est une forme d'absolu, F, On est toujours ce petit triangle. Hein. C'est intéressant à voir. L'étang, qui est une forme d'un participe, donc c'est une manière d'être. Une manière d'être un étang. Manière d'être. Le verbe est parfaitement lui-même dans le présent. Et l'infinitif peut être relatif aux deux. Je peux très bien, si je suis très sensibilisé aux formes grammaticales, considérer que l'infinitif seul exprime la signification à l'état pur, c'est vrai. Que l'étang exprime la signification d'une façon participée et exprime quelque chose d'actuel, de passager, dépendant du temps. L'infinitif est au-delà du temps. Être. Et, c'est dépend du temps. Étant, c'est relatif à un autre. Donc, vous voyez, il y a trois formes, là, qui sont très importantes. Si je suis très sensibilisé aux modalités du verbe, je pourrais me poser la question, y a-t-il trois significations différentes? Et je crois qu'il faut se poser la question, surtout aujourd'hui. Y a-t-il trois modalités, y a-t-il trois significations différentes? Il est évident que si je prends la signification radicale, c'est la même signification. Si je prends la manière différente dont cette signification se présente à moi, il y a trois significations. Alors là, vous voyez, vous retrouvez, c'est ça qui est intéressant à voir, vous retrouvez toute la pénétration de l'intelligence. Au-delà des modes, on saisit, dans un langage de saint Thomas, la ratio. Au-delà des modes, je saisis la ratio. Si je reste au niveau des modes, je ne saisis jamais la ratio, je saisis uniquement les modes. Si mon intelligence découvre, dans une pénétration toujours plus grande, la raison du verbe être, la ratio entis, la raison du verbe être, à ce moment-là, je dirais que la raison est la même. Selon ces trois modalités. Si au contraire je saisis l'être dans ses modes particuliers, je dirais que c'est différent. Alors, dans un point de vue critique, saisir la raison au-delà des modes, c'est le propre de la connaissance analogique. Et saisir la diversité des modes, c'est le propre d'une connaissance dialectique. Je crois que nous pouvons dire ça en définitive, hein, si on creuse au point de vue critique. Il ne faut pas le dire trop vite, mais je crois que c'est pratiquement ce qui caractérise la connaissance analogique, c'est le dépassement des modes qui sont divers pour saisir ce quelque chose de commun. Ce ticoïdon, comme dit Aristote, ce quelque chose de commun, qui est la raison. On verra ça constamment. Hein. Je vous le dis ici parce que je crois que c'est peut-être le moment le plus fondamental où on doit le saisir. Et donc ça, c'est un point de vue critique. Ça, c'est bien évident, c'est un point de vue critique. Mais la critique est toujours contemporaine au développement philosophique. Hein. Je ne peux pas faire de la métaphysique sans faire de critique. C'est impossible. Les deux choses se viennent tout le temps. Ce qu'il faut, c'est comprendre ces deux attitudes différentes, mais deux attitudes complémentaires. Eh bien, je crois que saisir la ratio au-delà de la diversité des modes, c'est le propre de la connaissance analogique. C'est peut-être comme ça qu'il faut définir la connaissance analogique. Tandis qu'au contraire, rester en face de la diversité des modes et opposer cette diversité des modes, c'est le propre d'un développement proprement dialectique. Qui ne saisit pas la ratio commune. Eh bien, ici, le problème est très net. Si je reste sensibilisé aux modes divers du verbe, je dirais qu'il y a des significations différentes. Si au contraire, j'essaie d'aller plus loin et de saisir la signification commune, la plus radicale, au-delà de ces modes, alors je dirais que c'est la même signification. Vous voyez, c'est très subtil. Il faut bien comprendre que le problème n'est pas facile. Le problème n'est pas facile du tout. Mais il est très important. Parce que c'est tout de suite deux perspectives de philosophie première qui vont se montrer à moi si, de fait, lorsque je suis parti du jugement d'existence, ceci est, pour aboutir à l'interrogation, qu'est-ce l'être, si pour moi la signification de être et de ceci est étant lié aux étangs. Les étangs, c'est ce que je saisis par l'expérience. Ceci est, c'est un trans-étang. Vous voyez bien, puisque c'est au-delà de l'expérience, c'est une méta-expérience. La méta-expérience, parce que je n'ai pas l'expérience immédiate de ceci est. Je l'ai toujours à travers l'expérience d'un étang. C'est-à-dire d'une réalité qui existe. Vous êtes un étang. Moi aussi, nous sommes là, exactement. Bon, nous pouvons nous serrer la main. Les étangs se serrent la main, mais l'être ne se serre pas la main. Non, ça, jamais, vous n'avez pas vu ça, c'est impossible. Alors, vous découvrez dans les étangs, et au-delà des étangs, le jugement de l'existence, ceci est. Et à partir de là, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez bien les trois moments. Hein? Hein? Ceci est, hein? C'est déjà un peu plus profond. Et puis trois. Il y a comme un progrès qui se fait. C'est très vrai. Je ne pose pas directement qu'est-ce que c'est que l'être à partir des étangs. Je passe par ceci est. Et c'est le petit métaxif, très intéressant, qui va me permettre de poser la question qu'est-ce que c'est. Et alors, à partir de ceci est, la manière dont on peut comprendre l'intuition de l'être. L'intuition de l'être dans ce qu'il a d'absolu, dans ce qu'il a d'au-delà de la diversité des soucis. Je veux bien être là. Une phase intermédiaire qui permet de comprendre l'admiration. Alors, je reviens au problème. Si la signification de qu'est-ce que c'est que l'être est la même que dans ceci est, vous voyez que ceci me permet de revenir à mon expérience par mon jugement d'existence. Si au contraire, la signification de l'être est totalement différente que la signification de l'étang, je dois nier les étangs pour que l'être apparaisse. Je ne peux pas faire autrement. Parce qu'autrement, je resterai collé aux étangs. Or, les étangs, c'est ce que nous saisissons par l'expérience, c'est ce que les sciences saisissent, c'est le point de vue prédicamental, c'est le point de vue logique, ce n'est pas l'être. Pour saisir l'être dans toute sa pureté, il faut donc me séparer des étangs, les nier pour arriver à saisir l'être, pour penser l'être. Et ceci, c'est parce que, de fait, la signification de l'être est prise comme tout autre que celle de l'étang. Et donc, je ne peux pas revenir à l'étang. Et donc, il y a une coupure entre l'expérience et penser l'être. C'est très beau, très beau. On voit un vieux platonisme là-dedans, vous voyez, c'est très très intéressant. Au fond, c'est très beau, parce que c'est l'être en soi. C'est l'être pris dans toute sa pureté, dans tout son caractère absolument pur. Et l'être dans toute sa pureté, dans toute sa... Seul l'esprit saisit. Et c'est pour ça que c'est donné dans l'expérience. Seul l'esprit saisit. Et seul l'esprit peut le saisir. Seul l'esprit peut saisir ça. Donc, c'est le lien entre l'être et l'esprit qui me permet de saisir l'être en soi. Et qui me permet de le saisir dans toute sa pureté. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'état, c'est l'être physique. C'est l'être biologique. C'est le caillou. C'est tout ce que je vois. C'est tout ce que... C'est toutes les réalités dans leur grossièreté. C'est l'être en soi. Mais vous voyez, c'est plus du tout l'être en soi ici. Hein. C'est justement le sens inverse. Tandis qu'ici, c'est l'être pour soi. Si je parle le langage de Sartre. C'est l'être qui a conscience ici d'être. J'ai conscience de penser l'être. Et c'est même là où la conscience est à l'état tout à fait pur. Et alors je le sépare de l'étant qui est la réalité physique. Donc vous voyez bien ce moment, je le crois très important. Parce que c'est là où on voit la différence entre celui qui va essayer de revenir à l'expérience ou celui qui se sépare de l'expérience grossière de nos sens, de l'intelligence liée à nos sensations, liée à nos expériences, pour essayer de saisir l'être à l'état pur, pour essayer de saisir l'être comme il est, pour essayer de penser l'être. Alors, vous voyez le côté très subtil et très séduisant de cela. C'est que c'est vrai. Seul l'intelligence saisit l'être. C'est vrai. Je ne saisis pas l'être par mes sensations. C'est bien évident. Mes sensations saisissent du sensible. Et l'être, ce n'est pas le sensible. Et donc, mon intelligence seule peut saisir ça. Et donc, je comprends très bien que cette interrogation qui met l'être dans un état de pureté lié à l'intelligence va réclamer de moi cette attitude réflexive pour saisir l'être dans toute sa pureté et pour maintenir cette pureté de l'être. Alors je suis dans une attitude réflexive, moi, je prendrai cette attitude réflexive qui fera que je découvre l'être à l'intérieur même de ma pensée. Et c'est dans ma pensée que je saisis l'être. Et donc je ne peux plus séparer ma pensée et l'être. Et il y a le lien entre pensée et être. L'être ne peut pas garder son objectivité et il est relatif à ma pensée. Et il est dans ma pensée. Il est saisi dans ma pensée. Et donc à ce moment-là, vous comprenez au point de vue critique, vous placez un point de vue critique, que l'être n'est plus saisi dans son objectivité d'existence, mais dans son intentionnalité de la pensée. Alors je comprends qu'à partir de là, on soit comme enfermé dans une intentionnalité tout à fait première. L'intentionnalité de la pensée. Comme je peux. Le seul moment où vous cogitez, c'est quand vous pensez l'être. Le cogito dans toute sa pureté, c'est penser l'être. C'est pour ça qu'on ne dit pas, c'est très curieux, parce que Descartes ne dit pas cogito à l'égard de telle ou telle réalité, cogito. Dans toute sa pureté, le cogito dans toute sa pureté, c'est penser l'être. Et l'être, alors, est lié au cogito, le cogito est lié à l'être. Et on ne peut plus séparer, puisque l'être n'est donné dans toute sa pureté que dans le cogito. Et donc, l'être est saisi dans l'intentionnalité de la pensée. Et je ne saisis plus l'être dans son objectivité. C'est-à-dire dans sa signification tout à fait pure. C'est enveloppé du cogito. Et s'il est enveloppé du cogito, je le saisis donc à l'intérieur même d'une intentionnalité. Alors ça, c'est très curieux, vous voyez. C'est très, très curieux. Parce que toute la grande intention de Heidegger, c'était de dépasser l'idée d'être. Ça est dit explicitement. Toute la métaphysique est partie de l'idée d'être. Toute la métaphysique suarésienne est partie de l'idée d'être. Maritain étant inclus jusque-là. Parce que pour Maritain, cette notion d'être, vous voyez bien que c'est encore l'idée d'être. Très curieux. Alors que dans son intention profonde, il voudrait s'en séparer. Mais c'est quand même l'idée d'être. Et c'est l'idée d'être qui commande toute la métaphysique. Alors Heidegger voudrait dépasser ça. Et il a raison. On ne peut pas faire une métaphysique à partir de l'idée d'être. Suarez dit qu'on fait la métaphysique à partir de l'idée d'être qui est finie et infinie. C'est ce qu'il dit dans les méditations de la métaphysique. On ne peut pas partir de là. Donc Heidegger a une intention de dépasser cette idée d'être. Et vous voyez que, en faisant cela, il enferme l'être dans la pensée. Donc dans l'intentionnalité. Alors, l'être n'est plus enfermé dans l'idée, mais est enfermé dans l'intentionnalité. Alors, l'intentionnalité par rapport à l'idée, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas d'idée sans intentionnalité. L'intentionnalité, c'est ce par quoi l'idée existe. S'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas d'idée. Donc, c'est la condition sine qua non de l'idée. Et il prend ce point de vue-là pour dire il n'y a pas d'idée de l'être, mais l'être, il est dans la pensée. Alors c'est le refus dans l'intentionnalité. Mais il retombe, vous voyez, c'est ça qui est très curieux, il retombe dans ce qu'il voulait éviter, puisqu'il voulait saisir l'être au-delà de l'idée. Donc au-delà de la manière dont je le connais. Or l'intentionnalité, c'est encore la manière dont je le connais, c'est pas l'être. Je peux distinguer, et saint Thomas revient toujours là-dessus, je peux distinguer la manière dont je connais une chose et ce qu'est cette chose. C'est une petite distinction très très importante. Je peux distinguer la manière dont je connais la chose. Je connais la chose toujours intentionnellement. C'est ma manière de connaître. Je ne peux pas connaître autrement. Parce qu'il y a toujours l'abstraction. Puis, il y a le fait que mon intelligence n'est pas mon être. Il n'y a que Dieu qui peut connaître sans intentionnalité. Même nos frères aînés, qui sont les anges, ont une intentionnalité. C'est propre à la créature. La créature secrète l'intentionnalité. C'est le propre de la créature. Secrète son domaine particulier que ma connaissance n'est pas mon être. Si ma connaissance n'est pas mon être, il y a donc un domaine particulier qui est le domaine de ma connaissance, et c'est là où je dis que cette connaissance secrète l'intentionnalité. Exactement comme l'amour. Mon amour n'est pas mon être. Je voudrais bien, mais ce n'est pas mon être. Et donc, il y a un domaine d'intentionnalité affective, comme il y a un domaine d'intentionnalité intellectuelle. Eh bien ça, c'est le propre de la créature. Je peux le dire au point de vue critique, vous voyez. C'est le propre de la créature, au point de vue critique. Mon être n'est pas ma pensée. Et ma pensée n'est pas mon être. Et mon amour n'est pas mon être. Il y a deux choses différentes. Ma manière de penser, c'est de penser donc selon un mode intentionnel. Eh bien, Heidegger n'a pas été jusque-là. Il est resté, et ça, c'est parce qu'il est encore trop dépendant de la phénoménologie husserlienne. Il s'est séparé de cela, mais est encore trop dépendant, et au fond, trop dépendant de Descartes. C'est très curieux. Alors qu'il veut en sortir, alors qu'il s'oppose à la fine pointe de Descartes, l'idée d'être, la primauté de l'idée sur la réalité, il s'oppose à cela, et il retombe dans le point de vue d'une intentionnalité qu'il n'arrive pas à séparer de la signification profonde de l'être. Je crois qu'on peut dire ça, je crois que c'est très délicat, hein. C'est très délicat, donc il faut le faire avec beaucoup de subtilité, sans trop affirmer. Mais je crois qu'on doit pouvoir le préciser. Vous voyez, le scalpel du chirurgien critique, qui voit jusqu'au bout une séparation qui n'a pas été faite et une confusion qui demeure. Et il y a une confusion qui demeure, le primat de l'intentionnalité sur la réalité existante. Et ce primat d'intentionnalité sur la réalité existante, vous voyez, vient à ce moment précis où la signification de l'être n'est plus reconnue comme celle de l'être. Bon. Alors, nous essayons, nous, de maintenir la distinction entre l'intentionnalité, notre manière de connaître, et ce qui est la réalité. L'intelligence est capable de saisir dans n'importe quelle réalité existante son être. C'est extraordinaire. C'est dur à cela, vous savez ce que c'est que l'intelligence. Vous pouvez porter une réalité, vous pouvez la sentir, vous pouvez la peser. Vous ne pesez pas l'être. L'être n'a pas de poids. Ça, c'est la quantité. Alors, la quantité est de l'être, oui, c'est sûr. L'être est présent dans le poids, mais l'être n'est pas le poids. La sensibilité touche telle ou telle qualité, l'être n'est pas cette sensibilité. Il est au-delà, mais cette sensibilité existe. Et ces qualités sensibles existent, mais l'être est au-dessus. L'intelligence peut saisir dans la réalité, on dira, sa valeur d'être, j'aime mieux dire, son être. Parce que l'être n'est pas une valeur, au sens absolu. Donc, il peut saisir son être. Et il saisit son être dans le mouvement d'existence. Et grâce à l'interrogation, je peux revenir à ce jugement d'existence et à mon expérience pour essayer de comprendre dans mon expérience qui seul me met en présence d'un être existant au-delà de l'intentionnalité. Si je réfléchis uniquement sur mon cogito, je demeure dans l'intentionnalité. Si au contraire je reviens à l'expérience et au jugement d'existence, je touche autre chose que l'intentionnalité. C'est ça la grandeur de l'expérience. Et c'est ça la grandeur du jugement d'existence. C'est que je saisis autre chose que l'intentionnalité. Je ne suis pas, vous voyez, enveloppé dans l'intentionnalité. Je brise le cocon de l'intentionnalité. Ou la bulle, si vous aimez mieux, de l'intentionnalité. Et vous dépassez et vous saisissez la réalité existante. Vous la touchez. Et mon intelligence touche l'être en acte par le jugement d'existence. Ceci est l'être en acte, non pas au niveau métaphysique, l'être en acte au niveau du jugement d'existence. Ceci est. Donc, vous voyez comment l'intelligence peut dépasser ce domaine d'intentionnalité. Au fond, c'est là la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que l'intentionnalité a pris une telle place que l'intentionnalité a remplacé l'être existant. Nous vivons dans un monde d'intentionnalité. C'est du reste très agréable. Si vraiment l'intentionnalité était la réalité, c'est merveilleux. Je me construis au paradis. Tant que ça dure, évidemment, il y aura un moment où je verrai que mon intentionnalité n'est pas la réalité devant la mort. Non, ça doit être un saut périlleux. Parce que la mort, elle se donne à moi au-delà de l'intentionnalité. Mon intentionnalité, si forte qu'elle soit, ne peut pas être victorieuse de la mort. Je voudrais bien. Mais elle ne peut pas. Donc là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose qui brise l'intentionnalité. Et donc qui est au-delà. C'est la même chose du côté de l'amour comme du côté de l'intelligence, du côté du cogito. Donc, je reviens à la réalité pour saisir dans la réalité non plus le ceci, mais l'être qui existe. Et je dis l'être qui existe dans l'étang. Au-delà de l'étang et dans l'étang, l'être qui existe. Donc c'est un retour à l'expérience, mais c'est plus exactement un retour au jugement d'existence dans l'expérience, sans se séparer de l'expérience. c'est dans ce retour, je reviens, ayant posé qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens avec tout l'appétit de mon intelligence, l'intelligence qui veut saisir ce qu'est l'être. Il faut bien comprendre ça. L'interrogation tend mon intelligence et la met dans un état, dans un désir, dans un appétit d'aller le plus loin possible qu'elle peut aller. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je veux saisir l'être dans ce qu'il a de plus radical, de plus foncier, de plus lui-même. Ça, l'interrogation, mais c'est la grandeur de cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est très grand. Mais la réponse à cette interrogation ne peut se faire qu'en revenant à la réalité, puisque seule la réalité existe. Et ce n'est pas en m'enfermant dans mon cogito que j'aurai la réponse. En m'enfermant dans mon cogito, je resterai dans l'ordre de l'intentionnalité, pas plus. Tandis qu'en revenant à la réalité, moi-même, l'homme qui est à côté de moi, qui existe, puisque c'est au niveau de l'homme existant et de moi-même, j'essaie de comprendre l'être dans ce qu'il a de plus profond. Donc, l'interrogation est absolument nécessaire. Si on n'interroge plus, on n'avance plus. C'est l'interrogation qui tend l'arc et qui permet donc à la flèche d'avoir son dynamisme profond, d'avoir tout son élan. Une intelligence qui interroge est une intelligence qui veut arriver, qui veut aboutir. Si elle n'interroge pas, elle est molle. Oui, alors elle n'a aucune espèce de vertèbre. Et par le fait même, elle trouve que c'est beaucoup mieux de décrire. Elle dit, ah oui, pas de réponse, ce qui est beaucoup mieux, c'est de rester dans l'interrogation. Je peux répondre, puisque l'être existe dans ma propre réalité et dans la réalité des autres. Et c'est en revenant à cette réalité par l'interrogation que l'intelligence va découvrir progressivement ce qu'est l'être dans ce qu'il a de fondamental, par un petit procédé qu'on appelle l'induction. Alors, un mot sur l'induction, hein, pas plus. Nous y reviendrons. Si je commence à vous parler d'induction, on y restera toute la nuit. L'induction, c'est très très simple au point de vue logique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, l'induction. C'est l'intelligence, vous voyez, qui découvre. C'est l'intelligence dans sa capacité de découverte. Nous sommes tous un peu des capitalistes. Et nous aimons mieux déduire. Voir ce que ça rapporte. Nous aimons beaucoup mieux ça. Une fois qu'on a acquis quelque chose, voir toute l'extension de cette réalité. Tandis qu'au contraire, découvrir, ah, ça c'est beaucoup. Découvrir, il y a toujours un risque, c'est de ne rien découvrir. Tandis qu'au contraire, d'exploiter, il n'y a pas de danger, on exploite toujours quelque chose. Alors vous voyez, les deux mouvements d'intelligence, ce qu'on appelle l'induction et la déduction. L'intelligence a les deux, il faut reconnaître que les deux sont importants. Et quand l'intelligence a acquis quelque chose, c'est facile de déduire. C'est difficile de l'acquérir. Il faut du gingin. Il faut quelque chose de particulier. C'est le vilebrequin qui creuse, qui rejette. Parce que de fait, dans toute acquisition, il faut rejeter. Alors, on n'a pas beaucoup envie de rejeter. On a envie de tout prendre. Il faut rejeter puis pénétrer. Alors, l'intelligence qui interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'intelligence revient à la réalité pour saisir à partir de cette expérience, avec le jugement d'existence, dans ce jugement d'existence, saisir ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans l'être. Et elle va saisir l'usure, la substance. Saisir ce principe propre de ce qui est, Pour saisir ce principe propre, il faut élaguer tout ce qui est les déterminations secondes. Toutes les déterminations catégoriales. Pour saisir l'au-delà de ces déterminations secondaires et saisir le principe propre. Donc, l'au-delà des déterminations, vous voyez, la métadétermination. La métadétermination, c'est un principe propre, c'est l'ousia. C'est une métadétermination, donc un au-delà de la détermination. C'est un dépassement, c'est saisir un principe, donc une source de toutes les déterminations. Toutes les déterminations sont. Et on va comprendre ça à travers une induction. Vous voyez, il y a toujours un mode négatif dans l'induction. Je ne peux pas m'arrêter à ça. Alors ce mode négatif est beaucoup plus facile à comprendre. Il est descriptif. Ce qui est difficile à saisir, c'est le moment précis où l'intelligence, après avoir élagué une quantité de choses, pénètre. C'est ce que Platon appelle l'œil de l'intelligence. Notre intelligence est emmitouflée complètement par l'imaginaire. Elle est ligotée par un tas de choses. C'est rare qu'on fasse un acte d'intelligence. Vous savez. Dans les conversations habituelles, c'est très rare qu'on fasse un acte d'intelligence. On répète. Et on est dans les répétitions. Alors pour répéter, on n'a pas besoin d'être intelligent. On n'a pas besoin. Quand on répète, on n'a pas besoin d'être intelligent, il suffit tout simplement d'avoir de la mémoire, de retenir des mots. Alors on les met comme on peut, on les tricote comme on peut, on fait un petit tissu, un petit tricot, ça fait vrai. Alors quelqu'un a déjà dit, écoutez, votre nœud est mal fait, vous avez mis deux choses à côté de l'autre, c'est pas du tout élégant. Non seulement c'est pas élégant, mais c'est pas vrai. Ça c'est l'intelligence qui dit c'est pas vrai. Quand vous imitez, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans l'opinion. Et l'opinion, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire qui répète. Alors, le moment précis où l'intelligence découvre, là, ça c'est quelque chose de très beau. Alors, pour bien comprendre ça, il faut bien saisir que revenant à la réalité, c'est-à-dire l'homme, je suis, hein, prenez, je suis, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Transporter avec vous votre laboratoire de philosophie première. Je suis. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être en moi. Qu'est-ce que c'est que l'être en moi. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est que cet être. J'existe, je sais que j'existe, je sais que j'ai une certaine autonomie. Je l'ai vu philosophiquement par toutes les autres parties de la philosophie. J'ai une certaine autonomie, je suis capable d'opposer certaines activités. Mais qu'est-ce que c'est que l'être en moi. Alors, j'ai là, l'être en moi. Est-ce que c'est la quantité? Non. Bien évident. Je peux maigrir et être toujours le même être. Je peux grandir et être toujours le même être. Je suis demeure au-delà de la quantité. La quantité, c'est pas l'être en profondeur. C'est pas la qualité non plus. Évidemment, ça aide de mettre un peu de lustre à l'être que d'être intelligent. Alors c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau, c'est merveilleux, c'est la forme. Les qualités, non. Parce que les qualités peuvent grandir, mon être est le même. Substantiel, radicalement, mon être est le même. Radicalement, mon être est le même. Et puis je vois des qualités que je n'ai pas chez le voisin, et j'existe. Alors le voisin me dira, moi j'ai un plus-être parce que je suis plus intelligent que toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un plus-être? C'est une manifestation de l'être, c'est une qualité, c'est quelque chose. Alors, vous prenez toutes les catégories. Vous arrivez à un moment très très difficile, c'est lorsque vous arrivez à la catégorie substance. Je vous ai dit, il faut toujours avoir les catégories devant l'esprit. Ça, il faut les avoir, il faut les connaître parfaitement. Hein, les 10 doigts de la main, il faut les connaître parfaitement. Alors, un petit nom sur chaque doigt. Comme ça, vous avez les 10 catégories devant vous, toujours. Et alors, un moment très difficile, c'est lorsque j'arrive à la substance première et la substance seconde. Eh bien, je ne peux pas, je dois dépasser cette distinction et montrer que cette distinction substance première et substance seconde ne me fait pas atteindre ce qui est radicalement. Parce que la substance seconde, c'est l'homme. La substance première, c'est Pierre. C'est moi, ce que je suis individuellement. C'est, en tant que je suis un sujet, sujet capable d'agir, eh bien, ce n'est pas encore l'être radicalement. Ça, nous y reviendrons la fois prochaine, parce que c'est un plan, un moment très important pour montrer comment je dépasse la distinction substance première et substance seconde pour découvrir le principe. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.